Bonjour à tous. Donc ce matin, nous continuons avec l'étude de l'évangile de Jean. Nous approchons doucement de la fin. La semaine dernière, Daniel vous a parlé de l'arrestation de Jésus. Nous arrivons donc là au chapitre 18. Et on va lire de Jean 18 à partir du verset 12. Et on va lire jusqu'au chapitre 19 et au verset 16. Donc c'est un passage qui est un petit peu long, mais c'est un passage aussi, je pense, qu'on connaît tous très bien, simplement parce que, alors bien sûr, vous en avez tous entendu parler, mais aussi c'est un passage qui a fait l'objet de nombreux films, on l'a vu représenté, on peut se le visualiser à travers, à travers les films qu'on a pu voir, il y a plein de supports en fait qui reprennent cette histoire. Donc là, on va lire le passage qui concerne le procès de Jésus. Et alors je commence Jean chapitre 18 à partir du verset 12. Et je lis dans la traduction du Semeur. La cohorte des gardes et des Juifs s'emparèrent de Jésus et le conduisirent enchaîné tout d'abord chez Anne, le beau-père de Caïphe, qui était le grand prêtre en exercice cette année-là. Caïphe était celui qui avait suggéré aux Juifs qu'il valait mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon-Pierre et un autre disciple suivirent Jésus. Ce disciple connaissait personnellement le grand prêtre, et il entra en même temps que Jésus dans la cour du palais du grand prêtre. Pierre lui resta dehors près du portail. L'autre disciple, qui connaissait le grand prêtre, ressortit donc, dit un mot à la concierge et fit entrer Pierre. La servante, qui gardait la porte, demanda alors à Pierre « Ne fais-tu pas partie, toi aussi, des disciples de cet homme ?»« Non, lui répondit-il, je n'en suis pas. » Les serviteurs et les gardes avaient allumé un feu de braise car il faisait froid, et ils se tenaient tout autour pour se réchauffer. Pierre se joignit à eux et se réchauffa également. De son côté, le grand prêtre commença à interroger Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit « J'ai parlé ouvertement devant tout le monde. J'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans la cour du temple où tout le monde se réunit. Je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Demande à ceux qui m'ont écouté comment je leur ai parlé. Ils savent fort bien ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui se tenait à côté de lui le gifla en disant « C'est comme cela que tu réponds au grand prêtre ? » Jésus lui répondit, « Si j'ai mal parlé, montre où est le mal. Mais si ce que j'ai dit est vrai, pourquoi me frappes-tu ? » Anne l'envoya enchaîner à Caïphe, le grand prêtre. Pendant ce temps, Simon-Pierre se tenait toujours au même endroit et se chauffait. Quelqu'un lui dit, « N'es-tu pas toi aussi un des disciples de cet homme ? » Mais Pierre le nia en disant, « Non, je n'en suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, l'interpella. « Voyons, ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?» Mais Pierre le nia de nouveau, et aussitôt, un coq se mit à chanter. De chez Caïphe, on emmena Jésus au palais du gouverneur. C'était l'aube. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas eux-mêmes dans le palais pour conserver leur pureté rituelle et pouvoir ainsi manger le repas de la Pâque. C'est pourquoi Pilate sortit du palais pour les voir et leur demanda « De quoi accusez-vous cet homme ?» Ils lui répondirent « S'il n'avait rien fait de mal, nous ne te l'aurions pas livré. » « Reprenez-le, répliqua Pilate, et jugez-le vous-même d'après votre loi. » Mais ils lui répondirent « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » La parole par laquelle Jésus avait annoncé quelle mort il allait subir devait ainsi s'accomplir. Pilate rentra donc dans le palais de justice et fit comparaître Jésus. « Es-tu le roi des Juifs ? » lui demanda-t-il. « Dis-tu cela de toi-même, ou d'autres t'ont-ils dit cela à mon sujet ? » répondit Jésus. « Est-ce que je suis juif, moi ? » répliqua Pilate. « Ce sont ceux de ta maison et les chefs des prêtres qui t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus lui répondit. « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, mes serviteurs se seraient battus pour que je ne tombe pas aux mains des chefs des Juifs. » Non, réellement, mon royaume n'est pas d'ici. Es-tu donc roi ? Reprit Pilate. Tu le dis toi-même, je suis roi. Et si je suis né, et si je suis venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité écoute ce que je dis. » Qu'est-ce que la vérité ? Lui répondit Pilate. Là-dessus, il alla de nouveau trouver les Juifs et leur dit : En ce qui me concerne, je ne trouve chez cet homme aucune raison de le condamner. Il est d'usage que je vous relâche un prisonnier à l'occasion de la fête de la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ? Ils lui répondirent en criant : Non, pas lui, Barabbas. Or Barabbas était un bandit. Alors Pilate donna l'ordre d'emmener Jésus et de le faire fouetter. Les soldats lui mirent sur la tête une couronne tressée de rameaux épineux, et ils l'affublèrent d'un manteau de couleur pourpre. Et s'avançant au devant de lui, il s'écriait : Salut, roi des Juifs ! Et il lui donnait des gifles. Pilate sortit de nouveau du palais et dit au chef des Juifs : Voilà, je vous le fais amener ici dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucune raison de le condamner. Jésus parut donc dehors, portant la couronne d'épines et le manteau de couleur pourpre. Pilate leur dit : Voici l'homme. En le voyant, les chefs des prêtres et des gardes se mirent à crier : Crucifie-le ! Crucifie-le ! Vous n'avez qu'à le prendre, leur lança Pilate, et le crucifiez vous-même. Moi, je ne trouve aucune raison de le condamner. Les chefs des Juifs répliquèrent : Nous, nous avons une loi, et d'après cette loi, il doit mourir, car il a prétendu être le Fils de Dieu. Ces propos effrayèrent vivement Pilate. Il rentra au palais de justice et demanda à Jésus : D'où viens-tu ? Mais Jésus ne lui donna aucune réponse. Alors Pilate lui dit : Comment ? C'est à moi que tu refuses de parler ? Tu ne sais donc pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et celui de te crucifier ? Jésus lui répondit : Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. Voilà pourquoi celui qui me livre entre tes mains est plus coupable que toi. À partir de ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les chefs des Juifs redoublèrent leurs cris. Si tu relâches cet homme, tu n'es pas l'ami de César. Si quelqu'un se fait roi, il s'oppose à César. Quand il eut entendu ces mots, Pilate fit amener Jésus dehors et s'assit à son tribunal, au lieu appelé la place pavée, en hébreu Gabata. C'était la veille de la semaine pascale, vers midi. Pilate dit aux Juifs : Voici votre roi. Mais ils se mirent à crier : À mort ! À mort ! Crucifie-le ! C'est votre roi ! Est-ce que je dois le crucifier ? Répondit Pilate. Les chefs des prêtres répliquèrent : Nous n'avons pas d'autre roi que César. Alors Pilate le leur livra pour qu'il soit crucifié. C'est un passage qui est à la fois extrêmement graphique. On voit bien les différentes scènes, les déplacements. On voit aussi des gens, on les entend. Et ce texte, même s'il n'était pas écrit dans la Bible, ce serait déjà un texte qui nous interpelle, parce que les personnes dont il est parlé là, sont des personnes dont on peut percevoir la réalité, l'humanité. Il n'y a pas de caricature ici. Il n'y a que des gens qui sont eux-mêmes, qui sont vrais, qui ont une profondeur et une complexité qui fait que on peut, au bout du compte, on peut, sur certains aspects, s'identifier à eux et retrouver certaines choses chez eux qui nous concernent. Et on va voir plusieurs personnes donc qui traversent ce passage, le grand prêtre, Pilate, Pierre, bon, Jésus bien sûr. On va voir aussi des groupes de personnes qui sont là comme des un peu comme des archétypes de d'humanité, la foule, les soldats, les gardes. Et on va voir comment le fait de croiser la route de Jésus, eh bien, ce que ça va nous apprendre sur eux, nous apprendre sur nous, et nous apprendre aussi sur ce Jésus. La première personne que je voulais aborder, c'est d'abord ce grand prêtre. Alors en fait, dans ce passage, on voit qu'il y a deux grands prêtres, il y a Anne et Caïphe. Donc Anne est le précédent grand prêtre qui a été déposé par les Romains et remplacé par par son beau-fils Caïphe. Mais Anne donc a gardé une grande influence sur le peuple, et c'est pour ça que c'est à lui qu'on amène d'abord Jésus. Et on sent bien que c'est un homme de pouvoir, un homme d'influence, hein, qui a conservé justement son pouvoir, alors que officiellement c'était quelqu'un d'autre qui avait assumé la charge. Un homme de pouvoir, un homme d'influence, habitué aux tractations, habitué à gérer le peuple. Et cet homme va interroger Jésus et il va lui demander ce que Jésus a enseigné. Il va pas le demander à ceux qui ont assisté à cet enseignement, comme ça aurait dû être le cas lors d'un procès normal. Il va aller le demander à Jésus, comme si Jésus pouvait lui dire des choses qu'il a dit à personne d'autre, des choses qui étaient cachées, un enseignement qui concerne qu'une élite ou que des initiés. Et probablement que c'est de cette façon-là que Anne avait l'habitude de fonctionner, en étant derrière la scène, en étant celui qui tire les ficelles, mais qui ne se met pas devant. Et Jésus va lui répondre, il va s'opposer à lui, d'une façon très claire, et il va lui dire, mais pourquoi est-ce que tu me demandes à moi quelque chose qui est de notoriété publique, que tous ont entendu. Et Jésus va répéter plusieurs fois que tout le monde a assisté et a entendu ce qu'il avait enseigné, et que dans ce qu'il a enseigné, il n'y a rien qui est caché, rien qui ait besoin d'être dit en secret. Et à ce moment-là, Jésus va subir, pour la première fois dans ce passage-là, la violence arbitraire du pouvoir, une violence qui va là se manifester par des coups. Et Jésus va encore une fois s'opposer à cette violence, non pas par la violence, mais encore une fois par la vérité. Il a confronté Anne par la vérité qui était connue de tous. Il va confronter aussi le garde qui le gifle en lui disant que si ce qu'il dit est la vérité, pourquoi est-ce qu'il est frappé? La deuxième personne que ce passage met en avant, c'est Pilate. Et Pilate, c'est d'abord un politicien. Il est chargé de faire régner l'ordre dans la province de Galilée. C'est lui qui est en charge de ça. Et c'est un politicien à une époque où l'échec en politique se payait beaucoup plus cher que maintenant. Hein, maintenant, on sait que quoi qu'il se passe, un homme politique peut toujours rebondir et revenir. Hein, on a vu ça plusieurs fois. Pour Pilate, l'échec se paierait probablement au prix de sa vie. Si une révolte éclate en Galilée qu'il ne sait pas la maîtriser, il est fort probable que sa carrière s'arrêterait là de façon définitive. Donc Pilate, ce politicien, rencontre Jésus, et on voit que dans ce passage, les rencontres se font alternativement à l'extérieur du prétoire, et puis à l'intérieur, et comme ça, sept fois, il va y avoir des allées et des retours. À chaque fois, il va y avoir une interaction avec Jésus, des paroles échangées, et on voit que Pilate, petit à petit, acquiert la conviction que cet homme qu'on lui amène n'a rien fait de mal et qu'il est innocent. Innocent de créer des troubles, puisqu'essentiellement, c'est ça qui le préoccupe. Donc Pilate comprend que Jésus est innocent. Et on voit qu'il va essayer de résister à la pression que les chefs des Juifs mettent sur lui. Il va essayer de leur renvoyer la responsabilité de Jésus. Mais ce passage nous montre qu'il échoue. Il s'avère incapable de résister à la pression. On voit en fait le aussi son cynisme à Pilate. Hein. On voit son mépris aussi des Juifs dans la façon dont il leur parle, même au début dans la façon dont il parle à Jésus. On voit aussi sa superstition. Hein. C'est un homme de son temps. Il apprend que Jésus a dit qu'il était fils de Dieu. Pour lui, ça fait référence à ses croyances romaines où les dieux pouvaient se promener sur la terre. Donc on voit tout ça chez lui. La façon dont il va répondre sur la vérité à Jésus quand Jésus va lui dire qu'il est venu rendre témoignage à la vérité. Là aussi, probablement que l'enseignement philosophique de Pilate va lui amener à répondre, mais qu'est-ce que la vérité? Donc, il essaye malgré tout de prendre parti pour Jésus, et finalement, il renonce à faire ce qui est bien, simplement pour sa survie politique, peut-être même sa survie physique. Et dans ce passage, Jésus va encore s'opposer à lui. Et il va s'opposer à lui, encore une fois, sur le terrain de la vérité. Pilate lui demande « Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu as fait ? Et puis d'où viens-tu ? » Et à cet homme de la rille politique, hein, de cette politique pragmatique qui consiste à gérer les conflits entre les gens, à accorder à un, à accorder à l'autre, tout ça pour garder un équilibre et une paix du moins superficielle. À cet homme du compromis et des arrangements, il va répondre, Jésus donc lui répond, que oui, il est roi. Et il est roi d'un royaume que Pilate ne peut pas percevoir. Mais d'un royaume dont malgré tout, Pilate dépend, parce que Jésus lui dit, l'autorité, le pouvoir que tu crois avoir, ce pouvoir qui est si important pour toi, ce pouvoir, tu ne l'as que parce que il t'a été donné par Dieu. À celui donc qui navigue au gré de ses intérêts et de la situation actuelle et de comment il peut en tirer avantage, il va lui dire que Jésus, lui, sa vie, depuis le début, depuis le moment où il est né, la raison pour laquelle il est venu au monde, c'est de rendre témoignage à la vérité de ce royaume. Ensuite, on peut parler un peu des autres groupes qui interviennent dans ce passage. Alors, un des groupes peut-être les plus marquants, hein, c'est ce groupe des soldats, et la brutalité, hein, qui les caractérise. Hein. Pour ceux qui ont vu, par exemple, la Passion de Mel Gibson, on mesure le degré de violence et de brutalité qui étaient ceux de ces soldats, la barbarie du fouet tel qu'il a été appliqué à Jésus. On voit les chefs des Juifs manifester une haine féroce contre Jésus. Ses cris à mort, crucifie-le. On voit aussi leur hypocrisie où ils refusent de rentrer dans le prétoire de Pilate parce que ça compromettrait leur pureté rituelle. Mais ça va pas les empêcher de demander la mort d'un innocent. Ils se présentent comme étant des défenseurs de la foi, mais ils vont pouvoir dire à Pilate que le seul roi qu'ils reconnaissent, c'est César. Au lieu de reconnaître la royauté de Dieu, ils vont la reporter sur César pour avoir gain de cause dans leur tentative de le manipuler. Ils vont réussir. Donc cette hypocrisie et cette haine, la foule aussi, qui elle aussi va être alors en partie manipulée, mais qui va elle aussi manifester la même haine et la même et finalement la même hypocrisie que ses chefs en demandant la libération d'un bandit à la place de celle de Jésus. Donc tous ces types qu'on retrouve encore maintenant hein, dans notre monde, hein, il n'y a pas à chercher bien loin pour retrouver cette même brutalité, cette même hypocrisie. Le grand prêtre qui représente, c'est vrai, cette élite de la société, mais une élite en même temps corrompue, une élite de la manipulation, une élite de la dissimulation. Et Pilate, lui aussi, le politicien arriviste, pas fondamentalement mauvais, mais faible, et prêt à renoncer à ce qu'il sait être bien pour arriver à ses fins. Donc tous ces types d'humanité qu'on retrouve aujourd'hui et depuis toujours. Une troisième personne qui occupe une place importante dans ce passage, c'est Pierre. Pierre, on en a déjà beaucoup parlé, parce que la relation entre Jésus et Pierre est une relation qui est vraiment, vraiment forte. Jésus lui a annoncé à Pierre qu'il allait l'abandonner. Pierre a affirmé sa foi, Pierre a affirmé sa volonté de suivre Jésus. Alors on connaît sa personnalité, hein, son côté impulsif, son côté fort en gueule, son courage aussi. Dans le passage qu'on a étudié la semaine dernière, Pierre a été le seul à sortir son épée, à aller couper l'oreille du serviteur du grand prêtre qui arrivait là. Et on sait aussi ensuite que Jésus va le relever, Pierre. On l'étudiera prochainement, mais on sait la place que Pierre va occuper ensuite dans l'Église. Et on voit dans ce passage, on voit l'aboutissement de ce que Jésus lui avait dit, qu'il allait l'abandonner. Qu'au moment où Pierre aurait pu prendre position pour Jésus, eh bien il ne le ferait pas. Dans d'autres passages, les trois étapes de ce reniement sont aussi marquées par des échanges de regards avec Jésus dans la cour du grand prêtre, où Jésus regarde Pierre au moment où Pierre nie le connaître. Et d'autres passages parlent des larmes de Pierre quand il se rend compte qu'il a accompli ce que Jésus lui avait annoncé. On voit un homme donc prêt à risquer sa vie pour Jésus, mais qui s'avère incapable de tenir sa parole au moment où où au fond il ne maîtrise pas la situation, où il ne maîtrise pas ce qui se passe. Quand Pierre avait une épée à la main, il était prêt à mourir pour Jésus, mais une fois que cette épée lui a été enlevée, par Jésus lui-même d'ailleurs, eh bien Pierre ne va pas être capable de tenir ferme à son engagement. Pierre, il fonctionne un peu en tout ou rien. Soit il est à fond et aux commandes et prêt à en découdre, soit il lâche. Et là, il lâche tout. Dans tous ces comportements qu'on a vus, tous ces personnages, on retrouve à la racine, bien sûr, on retrouve le péché. Et le péché originel, ce péché d'orgueil, qui fait que nous ne laissons pas à Dieu sa place. On ne laisse pas Dieu prendre sa place et nous, on n'arrive pas à prendre la nôtre. Et tous ces hommes, c'est exactement ça qu'ils font. Ils cherchent à occuper la place de Dieu. Et en faisant ça, ils s'avèrent incapables de laisser ce qui ne leur appartient pas, ce qui n'est pas de leur responsabilité, et ils s'avèrent aussi incapables de tenir ce qui était leur responsabilité. Je pense que vous connaissez tous cette image des trois singes, vous savez, qui se bouchent les oreilles, qui se ferment les yeux et qui se mettent la main sur la bouche. Et dans ce passage-là, on retrouve ces trois attitudes. Les chefs religieux qui auraient dû voir Jésus, parce que c'était ça leur responsabilité, de voir Dieu leur envoyer son fils, de voir Dieu répondre aux prières. Ces hommes-là ont refusé de voir. Alors qu'ils pouvaient le faire, ils ont refusé de le voir, ils ont fermé leurs yeux. Pilate, dont c'était la responsabilité d'entendre la parole de Jésus, d'entendre son innocence, Pilate a refusé d'entendre. Il s'est bouché les oreilles. Pierre, dont c'était la responsabilité de parler pour Jésus, de dire oui, je le connais. Pierre a fermé la bouche. Tous ceux qui avaient une responsabilité à accomplir devant Dieu et devant les hommes ont failli à cette responsabilité. Et j'ai dit au début que ce passage-là était fort parce que tous ces hommes-là, on peut s'identifier en partie à eux. Et pour moi, la première chose que je reçois en lisant ce texte, c'est de savoir comment je me place parmi ces hommes. Une première réaction, ça pourrait être de dire non, mais ça ne me concerne pas. Effectivement, j'y étais pas. J'ai jamais condamné personne à mort. Bon. C'est une première façon de refuser quelque part que ce texte peut me dire quelque chose. Une autre façon de réagir, ça peut être de dire oui, mais moi, je suis plutôt du moins mauvais côté. Par exemple, en opposant les Romains et les Juifs. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens ont pu faire. En disant, voilà, les Juifs ont tué Jésus. Les Romains, dont les non-Juifs sont les représentants, n'ont fait que suivre. Et une forme d'antisémitisme a pu naître de cette façon de dire les choses. Les Juifs ont tué le Sauveur. Et c'est vrai que ce passage-là est particulièrement, violent, mais particulièrement accusateur par rapport à l'attitude des Juifs. Et le mot juif, le mot chef des Juifs revient souvent avec une... Et Jésus va même jusqu'à dire, ils sont plus coupables que toi, Pilate. Effectivement, Jésus met même une hiérarchie dans la culpabilité à ce niveau-là. Mais il me semble que la racine de ce passage-là consiste pas à dire que certains sont plus coupables que d'autres, parce que au bout du compte, Tous sont coupables. Et nous savons bien que cette culpabilité n'a qu'une seule issue, et c'est la mort. Et c'est la mort. Les responsables religieux, le propre peuple de Jésus n'a pas été capable de le recevoir. Et ça s'adresse, j'ai envie de dire, à tous les mouvements religieux et les chrétiens en premier lieu. L'Église, combien de fois l'Église a failli à sa mission en étant incapable de témoigner de l'amour de Christ? Combien de fois? Combien de fois les responsables religieux ont fermé leur cœur, fermé leurs yeux? En lisant ce passage-là, pour moi, je le reçois comme une invitation à reconnaître ma responsabilité dans ce qui s'est passé pour Jésus, dans cette condamnation. Pour moi, ce passage, c'est une manifestation de la faillite de l'humanité dans tous ses composants, face à ce que Dieu leur a envoyé. Jésus reprend cette façon de raisonner, hein, vous le savez, quand il dit par exemple quand vous avez donné un verre d'eau à quelqu'un qui avait soif, quand vous êtes allé visiter quelqu'un en prison, quand vous êtes allé voir quelqu'un qui était malade, c'est à moi que vous l'avez fait. Et de la même façon, quand vous n'avez pas donné à boire à celui qui avait soif, quand vous n'êtes pas allé vers celui qui était malade, c'est moi que vous avez rejeté. Et dans ce passage, je pense que en tout cas moi je le reçois comme ça. Dans toutes les fois où j'ai pas su voir, toutes les fois où j'ai pas su entendre, toutes les fois où j'ai pas parlé, quand j'aurais dit, je participe à cette condamnation. Mais ce passage contient aussi un deuxième message. Et ce message, c'est que dans cette faillite de l'humanité, Dieu est là. Et il n'est pas là impuissant. Il est là, au contraire, tout puissant. Parce qu'une idée qui traverse ce texte, c'est que, en faisant tout ce qu'ils font, les hommes accomplissent le plan que Dieu avait depuis toujours. Le grand prêtre, et le passage nous le rappelle, a été celui qui a dit « Il vaut mieux qu'un homme meure pour le peuple ». Même en étant hostile à Dieu, sans s'en rendre compte, il a rendu témoignage à la mission que Dieu avait donnée à Jésus. Quand les Juifs refusent de tuer eux-mêmes Jésus, ce qu'ils auraient pu faire en le lapidant par exemple, ils accomplissent là aussi la parole qui annonçait que Jésus serait élevé devant tous les hommes pour donner sa vie. Quand Pilate dit en présentant Jésus, voici l'homme. Il accomplit la raison pour laquelle Jésus est venu, d'être l'homme accompli. Et oui, Jésus, voici l'homme, celui qui représente toute l'humanité. Dans l'attitude de Jésus, ce passage met particulièrement en avant le fait que Jésus ne subit pas. Ne subit pas ce qui arrive. À chaque fois, Jésus va s'opposer à ceux qui veulent tordre la vérité. À chaque fois, Jésus va dire non. au mensonge, dire non à la violence. Et il va le dire alors même que qu'il a subi déjà les coups, une première fois avec le grand prêtre, et ensuite même devant Pilate, après avoir subi le supplice du fouet, il va lui dire « Tu crois avoir le pouvoir, mais en fait non, le pouvoir que tu as, t'a été donné. » Dieu est là dans ce basculement de l'histoire. Dieu est aux commandes. C'est lui qui conduit toutes ces choses. Et Jésus va même dans ce passage-là poser des fondements qui ont déjà été évidemment commencés dans les années précédentes. Il va poser des fondements pour son Église, pour l'Église qui doit venir. Et un des premiers fondements qu'il va poser, à mon avis, c'est la foi. La foi de Pierre. Vous vous rappelez ce qu'il va dire, hein, d'ailleurs, à Pierre. « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je vais fonder mon Église. Le parcours de Pierre, qui le fait traverser ce reniement, cet échec complet de ce qu'il pensait de lui-même. Pierre est en train d'apprendre à lâcher prise sur ce qui appartient à Dieu. Quand Pierre veut utiliser la violence et la force pour faire triompher son message, Jésus va lui dire que, eh bien non, ce n'est pas le chemin. Ce n'est pas le chemin de l'Église. Ça appartient, la protection de l'Église appartient à Dieu. Ça, il faut le laisser à Dieu. C'est quelque chose qui ne nous appartient pas. Et en même temps, il va lui apprendre aussi à tenir ferme. Dans la façon dont Pierre a échoué à parler pour Jésus, et ensuite, la façon dont Jésus va le relever et va lui confier un rôle de berger dans son Église, Pierre va apprendre. Il va apprendre, quelque part, il va apprendre la foi. Parce que la foi, je pense que c'est bien une façon aussi de le dire, c'est une façon de lâcher prise, de faire confiance à Dieu, et une façon aussi de tenir, et de tenir ferme sur ce que Dieu nous a donné. Un premier fondement, la foi. Et un deuxième fondement, une colonne dans l'Église, c'est la vérité. Dans ce passage, Jésus combat pour la vérité. Et il va dire, « Je suis venu, ma vie est là pour témoigner de cette vérité. » Et cette vérité, c'est la révélation de Dieu. Ce n'est pas la vérité des philosophes de Pilate. Cette vérité, c'est la révélation de Dieu, la manifestation de l'amour de Dieu sur la terre, la manifestation du salut apporté aux hommes. Voilà la vérité qui porte l'Église et que Jésus pose dans ce passage. Et cette vérité fait que ce que Dieu construit, eh bien, n'obéit pas aux mêmes règles de domination, de violence, de manipulation qu'on peut trouver dans les constructions humaines, dans les systèmes humains, quels qu'ils soient, et qui retombent toujours dans les mêmes travers. Jésus rappelle que son royaume n'est pas de ce monde. C'est étonnant de voir combien l'Église a failli à mettre cette réalité en pratique, à comprendre que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde, que la façon dont Dieu construit son royaume ne fonctionne pas de la même façon que ce que les organisations humaines mettent en œuvre. Parce que ce royaume de Dieu, c'est fondamentalement quelque chose qui est anti-système. Les systèmes humains ne peuvent pas rentrer dans cette dynamique que Jésus met en place et qu'il témoigne dans sa façon de vivre. Alors je vais m'arrêter là, mais juste rappeler que ce passage nous montre que l'humanité a condamné le Christ, que moi, j'ai condamné le Christ à travers elle. Et que le premier pas pour reconnaître Christ, c'est peut-être d'abord accepter ça, accepter cette part de responsabilité, cette part d'acceptation du fait du mal qui est en moi, parce que ça, c'est que le premier pas. Et le deuxième pas, c'est de pouvoir s'approcher de ce Dieu tout-puissant et de déposer à la croix ce mal qui était en moi. Et normalement, c'est Luc qui nous parlera de la croix dimanche prochain. Pas dimanche prochain, celui d'après. Je vous remercie de m'avoir écouté.